Une vie, une œuvre, Guy Debord, 1931 Paris, 1994 Bellevue-la-Montagne. Martial Debord contracte la tuberculose peu après la naissance de son fils et vit reclus. Guy a 6 ans lorsque son père meurt. Quand sa mère Paulette se remarie, il est pris en charge par sa grand-mère. Parmi ses occupations, les soldats de plomb et le découpage. Ses professeurs du lycée de Cannes voient en lui un élève nettement en tête de classe, trop facilement peut-être. Il possède les classiques, mais aussi Butor, Sartre ou Breton. Il fait de la revue internationale situationniste le lieu où s'expriment les idées de l'avant-garde artistique et intellectuelle. En 1967, la Société du spectacle est éditée et demeure son ouvrage le plus connu. À partir des années 1970, il séjourne entre Paris, Auvergne et Toscane. Devant les menaces d'une polynévrite alcoolique, il se suicide en 1994. Son dernier livre s'achève sur ces mots. « Je ne pense pas être si énigmatique que l'on se plaît à le dire. Je crois même que je suis parfois facile à comprendre. » David Christoffel signe avec Lionel Quentin « Une vie, une œuvre, Guy Debord ».
Oui, la main en arrière. Parfait. C'est trop en arrière. Revenez. Très bien. Redescendez. Très bien. Enlevez la main. Très bien. Maintenant, c'est assez. Maintenant, vous de face. Face. Et là, vous allez vraiment mettre deux mains comme ça.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accompli dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
David Francisco, vous préparez une thèse à Paris 13, au Leipzig, sur les enjeux du média training dans le monde politique et économique. Ça existe depuis quand, le média training?
Alors, moi, je le situe à peu près à partir de Gaulle, avec les premiers entraînements où il s'entraîne un petit peu à tout ce qui est prise de parole avec les publicistes, qui l'aident beaucoup pour sa prise de parole en public. Mais le média training prend vraiment, on le connaît sous sa forme actuelle, plutôt dans les années 80. Je le situe vraiment avec l'élection présidentielle de 81, où François Mitterrand s'est vraiment entraîné à la prise de parole. Il a été coaché par le fameux cinéaste Serge Moati, qui l'a beaucoup aidé. Et il a été aussi entouré de Jacques Séguéla et de tous les publicistes par rapport à ça.
C'est-à-dire que dans son histoire, il reste le fait d'hommes exceptionnels, là où maintenant le media training est complètement intégré, voire c'est la règle en fait.
Alors oui, c'est devenu incontournable, dans la mesure où on constate que ne pas s'entraîner, c'est une grave erreur, parce que les acteurs politiques sont confrontés à la pression médiatique, à tout l'enchaînement, l'emballement médiatique. Donc pour répondre au questionnement en fait, des médias, au questionnement aussi à la discussion que posent les pouvoirs publics, tout cet échange, il faut en fait avoir une certaine préparation, parce que ça nécessite d'être réactif, d'être, maintenant c'est le mot qu'on utilise souvent, efficace. Donc du coup, c'est dans cette optique qu'il se prépare pour éviter en fait, de faire des erreurs et d'être le plus concis, le plus efficace encore que possible.
Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le grand pouvoir gagné par les médias, le développement du media training, ce sont des aspects encore très superficiels de ce que décrit la société du spectacle, Patrick Marcolini.
Oui, effectivement, quand Debord parle de spectacle, il n'entend pas vraiment parler uniquement des médias, mais plus largement d'un certain état de la société. Alors, pour éviter tout malentendu sur ce concept, dès la thèse numéro 5 de la société du spectacle, il précise ceci, hein, je vous lis le passage. Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Et un petit peu plus loin, il ajoute, le spectacle, c'est une vision du monde qui s'est objectivée. Donc on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus global que la supposée hégémonie des médias dans la société contemporaine. En fait, historiquement, le concept de spectacle apparaît chez Debord d'abord dans le contexte d'une critique de l'œuvre d'art en tant que forme de représentation qui fige un instant de la vie et le met à distance, d'où on va le contempler dans le lointain, et le contempler de manière passive, alors pas complètement passive, puisqu'il parle bien d'une participation affective du spectateur à ce qu'il regarde.
Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres.
Et à partir de cette critique de l'œuvre d'art, qui est vraiment inscrite dans la problématique des avant-gardes des années 50, Debord va progressivement procéder à un élargissement du concept de spectacle. C'est-à-dire qu'il part d'une critique de la représentation restreinte et il passe à une critique de la représentation élargie. Progressivement, ce n'est plus seulement l'œuvre d'art qui est critiquée comme spectacle, mais la culture dans son ensemble, la culture contemporaine, puis finalement, à la suite de sa lecture ou de son approfondissement des thèses de Marx, ça devient la société et la société capitaliste. Et c'est comme ça qu'émerge le concept de société du spectacle, c'est-à-dire une société dans laquelle toutes les formes d'activité, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, sont exactement comme l'œuvre d'art qu'il critiquait dans les années 50, des formes de représentation où l'individu et le collectif n'ont plus de participation active et se livrent simplement à une contemplation des choses dont ils ont été dépossédés, une contemplation qui se fait à distance et à laquelle ils ne participent que de manière détournée et compensatoire par une identification à ce qu'ils regardent. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait définir le concept de société du spectacle.
Voici les 6 types de mecs qui draguent le plus sur Tinder.
L'insta modèle, il poste que des photos de lui dans les endroits les plus cools du monde. Et s'il a un produit dans la main, ça veut dire qu'il est sponsor. Le queutard, lui, il a pas le temps. Il est là juste pour niquer. Ah non, on va rien montrer par contre, hein, sinon je vais encore me faire censurer par YouTube.
Et il ajoute dans la thèse 4 de la société du spectacle quelque chose de fondamental. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, c'est un rapport social entre des personnes médiatisé par des images. Et vous voyez Instagram là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en rapport les uns avec les autres, on est en rapport avec les images mises en scène qu'on diffuse via Instagram. Vous voyez ? Donc il y a vraiment plusieurs éléments dans la société contemporaine qui rendent urgente la lecture de Debord.
Et alors Bertrand Cochard, vous faites dans le même mouvement une critique de Tinder en montrant comme peut-être l'appli précède les relations et par conséquent les paramètres ?
Alors... La critique des applications, hein, des dispositifs techniques, c'est pas une critique qui est immédiatement évidente à faire à partir de Debord, parce que Debord, en tout cas en 67, est pas très critique à l'égard de la technique. En gros, la thèse de Debord, c'est de dire la valeur de la technique dépend de l'usage qu'on va en faire. En gros, il dit, bon voilà, le système capitaliste accapare toutes les possibilités techniques de construction de la vie quotidienne, et si jamais par la praxis révolutionnaire on s'en empare, bah on pourra construire notre vie quotidienne de manière riche, etc. Donc ouais, la critique de la technique faite à partir de Debord, c'est pas évident. Mais il me semble qu'il peut quand même permettre d'avoir une critique intéressante de la technique, notamment des applications hein, comme Tinder, parce que vous avez vu que le propre de la société du spectacle, c'est de capter nos désirs, de nous rendre étrangers à nos propres désirs. Et là, vous parliez de paramètres, bah, ça paraît évident dans Tinder. Hein. Il me semble qu'il y a une sorte de périmètre géographique, hein, quelque chose comme ça. Des algorithmes de rencontres, Tinder, mais c'est aussi Elite Rencontre hein, ou Mythique. Et donc, les rapports qu'on entretient les uns avec les autres sont des rapports qui sont, en philosophie, on appelle médiatisés par des applications. Et ces applications-là, elles donnent des relations entre les individus qui sont très paradoxales parce qu'on n'a jamais été aussi proches, mais en même temps on n'a jamais été aussi éloignés les uns des autres. C'est ça le spectacle aussi, il exprime des contradictions.
Isabelle Barberis, est-ce que vous êtes Isabelle Huppert ?
Alors, malheureusement, non, plutôt heureusement, je ne suis pas Isabelle Huppert. Je n'aimerais pas du tout être Isabelle Huppert parce que précisément, elle est, je pense qu'elle le vit très bien, mais elle est sous le régime de ce védétariat qui fait que pour elle, qu'elle soit finalement sur scène ou dans la rue, elle accomplit finalement la fausse unité que dénonce Debord, la fausse unité du spectacle, qui consiste à être dans cet régime de représentation, de théâtralité perpétuelle. Donc elle ne s'appartient jamais, puisqu'elle elle est vouée à être Isabelle Huppert, à n'être qu'Isabelle Huppert. D'ailleurs, dans les, de plus en plus, Isabelle Huppert est mise en scène, que ce soit au théâtre, au cinéma, en tant qu'Isabelle Huppert. Je me souviens de cours d'honneur de Jérôme Bell, dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 2013, où une des séquences était tout simplement un Skype avec Isabelle Huppert qui se trouvait à l'autre bout de la planète, où Isabelle Huppert était condamnée à n'être qu'Isabelle Huppert. Donc fort heureusement, quand on n'est pas Isabelle Huppert, on a encore la possibilité d'être plusieurs Isabelle. Et c'est tout le paradoxe de la vedette, c'est que finalement l'unification par le spectacle que la vedette accomplit leur ôte finalement ce qui est aussi qui fait partie de la jouissance du jeu théâtral, c'est-à-dire la multiplicité. Il n'y a plus de multiplicité chez Isabelle Huppert. Donc je me réserve encore peut-être pas autant de multiplicité qu'un comédien, mais un peu plus qu'Isabelle Huppert.
Ce qui illustre la thèse 59. Le mouvement de banalisation qui, sous les diversions chatoyantes du spectacle, domine mondialement la société moderne, la domine aussi sur chacun des points où la consommation développée des marchandises a multiplié en apparence les rôles et les objets à choisir.
Là, c'est Debord dans cette thèse, fait bien ressortir la question du rôle, qu'évidemment il emprunte au théâtre. Je dirais que chez Debord, la notion de rôle, bon, elle s'inspire de la désappropriation du comédien, qui n'est plus, voilà, qui a un emploi et qui est assigné à une fonction. Je pense que la notion de rôle va plus loin chez Debord qu'au théâtre, que Debord utilise la métaphore théâtrale véritablement pour réfléchir à la société du spectacle comme une sorte de cybernétique. Les individus ne sont plus, même plus des rôles, mais des opérations d'une machine. La société du spectacle chez Debord, en cela aussi, il y a une analogie avec le théâtre. C'est une machine qui distribue des opérations, des impulsions. C'est une sorte de régie générale, une grande régie.
Alexander Neumann, il y a une thèse en particulier qui vous intéresse, c'est la thèse 34, qui dit « Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. » C'est une question de degré, alors.
Oui, en fait, ce qui m'a plu dans cette thèse, c'est à la fois son côté évocateur. Hein, elle est très belle, on voit tout le style personnel aussi de Bord qui s'exprime à cet endroit, très courte et très saisissante, et en même temps c'est un carrefour, ou plutôt un passage entre les deux principaux arguments qu'il déploie dès le départ, à savoir l'accumulation capitaliste qui crée sa propre représentation. Et ensuite, le spectacle, c'est la section 2, le spectacle, qui est introduite un peu plus loin, deux thèses plus loin, par sa lecture ou sa compréhension d'un concept de Marx qui est le fétichisme de la marchandise. Et cette thèse qui dit, je répète, hein, le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qui devient image, à mon avis, c'est une chute, une conclusion de la première partie qui veut poignante, hein, parce que on se sent un peu étouffé quand même. Enfin, moi, ça me crée un petit effet presque sensible. que le capital nous écrase mentalement à un tel point qu'il est lui-même à sa propre image, presque comme Dieu, hein, l'image de Dieu. Et on pourrait avoir l'impression que ça se mord la queue, hein, parce que le spectacle devient image dans cette phrase. Mais Debord explique très bien que justement cette tautologie, cette apparente répétition ou dédoublement, réside dans l'effet que provoque ou que crée le capitalisme contemporain de son époque, puisqu'il confond moyens et objectifs. Il explique que l'ouvrier est intégré dans cette représentation presque devenue totale et contre-révolutionnaire, hein, du spectacle, mais on ne voit pas où est-ce qu'il y aurait alors la ressource, la motivation pour un dépassement, pour une alternative. Et en fait, à mon sens, c'est là où il ne mobilise pas suffisamment une autre idée qu'on trouve aussi chez Marx, qui est celle du travail vivant. Et il dit que la vie est intégrée, même tout ce qui est vécu est intégré au spectacle, mais le travail vivant que Marx oppose au capital, c'est-à-dire la nécessité des travailleurs d'exister en dehors même de ce qui peut être exploité ou ce qui peut être capté comme production de plus-value, etc., charrie toujours aussi la possibilité d'un dépassement d'une proposition qui déborde de ce qui est demandé aux travailleurs, aux salariés, aux consommateurs, acteurs aujourd'hui.
Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire.
Laurence Le Braz, vous êtes conservatrice à la Bibliothèque nationale de France en charge du fonds Guy Debord. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds ?
Les archives de Guy Debord contiennent les manuscrits de ses œuvres, des documents de travail pour la préparation de ses œuvres, un très vaste ensemble de documents autour de l'international situationniste, d'abord autour de l'international lettriste, puis ensuite autour de l'international situationniste, des archives concernant les nombreux tracts qui ont été édités, les textes qui ont pu être rédigés dans le cadre des conférences. C'est-à-dire tout un ensemble d'archives qui vont à la fois permettre, qui vont permettre aux chercheurs à la fois de mieux comprendre l'élaboration de l'œuvre de Guy Debord et de retrouver le fil de l'histoire des actions menées par l'international situationniste. Pour la Société du spectacle, le livre, nous avons les trois cahiers manuscrits de la Société du spectacle. Ensuite, comme on trouve traditionnellement dans les archives, la dactylographie corrigée, les épreuves corrigées, un ensemble aussi des dossiers de presse autour de la réception du texte dès 1967. Et évidemment, l'ensemble dont de nombreuses personnes ont déjà parlé, tous ceux en tout cas qui ont pu consulter le fonds depuis son entrée dans les collections du département des manuscrits, les notes de lecture. Alors les notes de lecture, elles ne concernent pas seulement la Société du spectacle. Les notes de lecture, c'est un vaste ensemble de petites fiches sur lesquelles Guy Debord a noté des citations à retenir au fil de ses lectures. Il ne pratiquait absolument pas les annotations sur les ouvrages, donc les livres de sa bibliothèque sont vierges de toute annotation. Mais il recopiait donc des citations qui lui semblaient importantes, à la fois pour l'élaboration de sa propre pensée, toute pensée s'élaborant dans une continuité de pensée avec d'autres auteurs, des auteurs lus à partir desquels on va pouvoir poursuivre une réflexion déjà entamée. Et la société du spectacle, c'est d'ailleurs ce texte vient d'ailleurs, on le sent dans la continuité, c'est assez facile de le dire, mais dans la continuité des lectures de Marx, d'abord de Hegel, de Marx, de tous les penseurs qui, autour de Marx, ont réfléchi aux développements les plus contemporains de la société, de l'économie, et des travers de l'économie dans la société capitaliste, notamment pour son incidence sur la vie des êtres humains, qui est fort mise à mal par tous les développements économiques de la société capitaliste.
Il y a, à mon avis, quelque chose de plus fondamental, c'est simplement l'idée que, quelque chose qu'il appelait dans les années 50 avec Volman, le communisme littéraire, sur le détournement, cette idée que le passé culturel, regorge d'un certain nombre de pensées, d'auteurs, qui nous ont fourni des éléments intéressants pour penser la révolte actuelle, et qu'il faut simplement actualiser, vous voyez ? Donc par exemple sur Marx, bah disons que la théorie de Marx est encore actuelle pour peu qu'on l'actualise. Donc du coup, le détournement, c'est aussi, ça consiste en ça. Tous les ferments révolutionnaires contenus dans la culture passée, on les actualise et on en fait des armes de destruction massive.
La suite du spectacle, donc il y a un ouvrage dont on imagine et dont on dit toujours que c'est un ouvrage de théorie. Alors c'est d'abord un immense collage littéraire et une œuvre...
L'historien de l'art, Emmanuel Guy.
L'œuvre d'un écrivain, de quelqu'un qui a rassemblé un ensemble de citations, qui les a retravaillées, pas pour le plaisir de les retravailler, mais pour mettre à jour la pensée qui était là contenue dans ces citations, de Marx, de Hegel, de penseurs militaires, il y a aussi des bouts de l'Énéide, etc., pour construire un texte éminemment poétique. Donc voilà le premier point. Ce texte-là a été réduit, peut être réduit à un ouvrage de théorie, alors qu'en fait, quand même, il y a pas mal d'analyses historiques qui traversent le texte pour soutenir cette théorie. C'est une analyse d'un moment contemporain, d'un mécanisme, et ça donne les clés pour le combattre. Donc on a une forme de dramatisation, en fait, qui se met en place, où nous est décrit une situation terrible, c'est le début d'un drame, et comment est-ce qu'on va le résoudre ? Hein, donc on en fait la généalogie, voilà d'où vient le drame qu'on a constaté au départ, et puis comment le dépasser. Et peut-être que cette lecture que j'aimerais pouvoir faire de la suite du spectacle comme un roman d'action en quelque sorte, elle vient de là, de ma pratique et de mon goût et de mon intérêt pour ce jeu de la guerre, qui permet de mettre en mouvement le texte. Et c'est quelque chose aussi qui est très présent dans les archives liées aux notes préparatoires au film La suite du spectacle.
Mais pourquoi est-ce que dans ce cahier, il n'y a que les chapitres impairs ?
Alors ça, c'est un point que personne n'a encore réussi à comprendre, peut-être qu'on ne comprendra jamais et que ce n'est pas très important. Et il y a trois cahiers. Le premier, donc, intitulé par Guy Debord lui-même A, petit A, contient les chapitres 1, 3, 5, 7, 9. Le deuxième, le cahier B, contient les chapitres 2 et 4. Et le troisième, intitulé C, contient les chapitres 6 et 8. Peut-être que quelqu'un comprendra un jour, mais on ne sait pas pourquoi il a procédé ainsi. Surtout que, comme vous avez pu le voir là dans le cahier, il n'a pas laissé plusieurs pages blanches entre chaque chapitre. Parce qu'on pourrait se dire, ah, il a choisi d'écrire le premier chapitre sur un cahier, le deuxième sur un autre, au cas où il aurait eu à revenir sur le premier, le compléter... Donc se laisser une marge de quelques feuillets. Mais en fait, non, il n'y a pas de... Alors, sauf à considérer qu'effectivement, il a procédé ainsi. À la fin du chapitre 2, il a considéré qu'il n'avait plus rien à ajouter au chapitre 1. Il a repris au chapitre 3 sur le premier cahier, en laissant la possibilité, tant qu'il n'avait pas écrit le chapitre 3, de compléter le chapitre 2, et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'une hypothèse, et... Je vous dis peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, ça restera toujours un mystère, une particularité de ce manuscrit.
La théorie critique doit se communiquer dans son propre langage. C'est le langage de la contradiction, qui doit être dialectique dans sa forme comme il l'est dans son contenu. Il est critique de la totalité et critique historique. Il n'est pas un degré zéro de l'écriture, mais son renversement. Ouais.
Et là, c'est un passage que vous avez isolé
Oui, en fait, quand je présente la société du spectacle, notamment à des étudiants, c'est toujours un peu compliqué parce que le texte est dense. Donc, je pars de comment c'est fabriqué, j'introduis quelques concepts importants, notamment qui remettent de bord dans le contexte de son époque, et de concepts qui sont rediscutés à l'époque, notamment celui d'aliénation. Et ensuite, j'essaie de donner des exemples, puisque la société du spectacle, c'est quand même à la fois une analyse et une espèce de feuille de route pour savoir que faire contre le spectacle. Donc, j'illustre ça avec des extraits du film 73, La société du spectacle. Voilà.
Je l'ai lu quand j'étais étudiant à Paris 8, à un moment donné, où pour moi, c'était une sorte de traduction française des textes Walter Benjamin, par exemple, sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction technique, c'est-à-dire la circulation en masse des biens culturels qui deviennent représentations spectaculaires. Mais je voyais pas le côté très noir et un peu pessimiste de Debord, parce que je liais ça à des mouvements qui se faisaient dans les années 90, etc., qui étaient des critiques des médias et qui n'étaient pas forcément pessimistes quant aux formes alternatives qui pouvaient se développer et qui se sont effectivement développées à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, quand je le relis, je me rends compte qu'il manque tout le pan utopiste et prometteur qu'on trouve chez Walter Benjamin, qui était lui-même un grand désespéré, mais qui pensait néanmoins ce qu'il appelle la critique qui sauve, c'est-à-dire que le spectateur va s'émanciper par l'expérience collective, par l'expérience sensible qui va être partagée, parce qu'il se reconnaît à l'écran, par exemple dans les figurants de Eisenstein qui sont des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs berlinois vont se reconnaître, il y a quelque chose qui va dépasser la représentation médiatique et fétichiste du spectacle. Ce type de pistes qui sont toujours présentes chez Benjamin et plus tard chez Nicht et Kluge dans la même filiation adornienne de Francfort, ben en fait, mis à part cet arrière-fond de la révolution culturelle chinoise, ce n'est pas argumenté chez Debord. Et c'est ce qui fait un peu, peut-être, la limite aujourd'hui.
Le chercheur Pierre-Ulysse Baranque.
C'est pas l'idée qu'on part de plus en plus loin dans la part du réel, c'est plutôt que de lutte dialectique, de contradiction en contradiction, de nouvelles situations apparaissent complètement, de nouvelles stratégies, de nouveaux jeux, un monde nouveau apparaît, et ça il y a des passages très beaux dans Engine Room, où il montre à quel point dans finalement le combat sacrificiel très homérique hein, dans ce film, hein, où on pense vraiment à l'Iliade hein, quand il décrit la lutte politique de 68, dans les décombres et les déconstructions, la catastrophe entre les corps qui apparaît au moment de cette lutte, quel est l'effet de tout cela? Une fumée de poussière apparaît, puis se dissipe, et derrière cette fumée de poussière, c'est un nouveau monde. Et c'est ce nouveau monde qu'il recherche tout le temps, et c'est ce Graal de la contradiction qu'il évoque dans Engine Room et qui pour lui était la quête mystique, post-théologique, hein, mystique athée des situationnistes. Le terme Graal est utilisé dans le film explicitement. Hein.
Marco Condor.
Oui, dialectique de dialectique. Oui. En tout cas, je crois que, enfin, moi, je suis complètement d'accord hein, sur Engine Room. Je crois vraiment que c'est vraiment, pour moi, le film le plus abouti, le plus intéressant de l'ensemble, quoi. Et puis bon, il y a quelque chose moi qui me parle beaucoup. Effectivement, c'est la question du palindrome, c'est la question de la non-résolution. Et de ce point de vue-là, évidemment, on sort complètement de la dialectique de la vulgate marxiste à laquelle on était plutôt habitué, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de solution en tant que telle. Il n'y a que des problèmes qui en engendrent d'autres et ainsi de suite. Donc, on retrouve ça, effectivement, dans, y compris dans le travail sur la forme. Et on a vraiment, alors là, moi, je trouve bien plus fortement campé, si je puis dire, que dans le film La Société du Spectacle, que moi, je trouve assez laborieux, mais pour, y compris pour une raison, je dirais, de base, c'est-à-dire qu'il a pris des extraits du bouquin et il a fait une espèce comme ça de jeu de miroir entre l'image, le montage et les thèses, ce qui n'est pas le cas de son dernier film, qui est de ce point de vue-là beaucoup plus, je veux dire, harmonieux, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas plus fluide et en même temps où moi je trouve qu'on a vraiment une pensée qui se met en mouvement filmiquement parlant.
Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leurs voitures et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats, ou ce qu'ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés, comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants.
En gros, Debord est un critique de la société des loisirs. C'est-à-dire le fait que le capitalisme, progressivement, s'est emparé de l'intégralité du temps vécu. Parce que l'aliénation du travailleur chez Marx, elle concernait surtout la sphère de la production. Mais Debord dit que le propre du capitalisme contemporain, c'est d'avoir étendu l'aliénation, avoir étendu son contrôle jusque dans la vie quotidienne et jusque dans les loisirs. Donc du coup, Debord critique le sport de compétition et il dit il s'agit ici d'une reproduction de la logique marchande, donc de la compétition, de la concurrence, du fait de traiter son adversaire comme un moyen, etc. Et à ça, Debord va opposer le jeu, c'est-à-dire l'activité gratuite, l'activité ludique, dans laquelle, la vie peut être réellement vécue, indépendamment justement de ces logiques marchandes, de l'aliénation sociale, et du coup, le jeu prend une importance capitale dans sa pensée. Vous le voyez dans La Société du Spectacle.
Thèse 167 de La Société du Spectacle, cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance en tant que séparation spectaculaire.
Ouais, moi ça rejoint un peu ce que je dis, quoi.
Le chercheur Louis Staritsky.
On arrive dans l'époque où le territoire nous paraît donné, tout nous paraît très, très simple d'accéder aujourd'hui. Avec un Ouigo, en 10 euros, on peut arriver sur n'importe quelle ville. Et en fait, la possibilité d'avoir une expérience avec ces villes-là, elle devient de plus en plus compliquée. Il y a de moins en moins de personnes qui, justement, vivent des... Enfin, qui la localité, elle perd un sens au moment où elle est de plus en plus accessible, en fait. C'est un peu comme ça que je dis la thèse.
Et dans la thèse suivante, il définit le tourisme comme circulation humaine considérée comme une consommation. Et il écrit « L'aménagement économique de la fréquentation des lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. »
Ouais, ouais, je serais assez d'accord avec lui.
Ça semble vouloir dire que si on va visiter Marrakech une année, c'est comme pour se garantir que ça vaut bien la visite à New York qu'on a faite l'année d'avant.
Ouais, c'est un peu aussi l'idée dans toutes ces thèses autour du voyage, d'aller un peu vérifier les images aussi qu'on a de ces villes là, quoi, où le tourisme c'est plus qu'un moyen d'aller vérifier la photo, la photo qu'on a de la place Jemaa el-Fna, faut aller la vérifier.
Se rendre dans la salle de départ numéro 30. Vous écrivez « Un an avant de m'inscrire en thèse, je croise ce mot « dérive » en lisant les situationnistes. Je découvre alors les explorations psychogéographiques et leurs aventures collectives. » Ça veut dire que, d'une certaine façon, la notion de dérive psychogéographique a modifié votre parcours de chercheur.
Effectivement, c'est un mot que je croise en lisant les situationnistes. Moi, je les ai assez vite pris comme une bande, un collectif qui tente d'expérimenter, de devenir plutôt éprouver leurs hypothèses. Et c'est ça qui m'a plu dans cette notion de dérive, c'est essayer d'aller comprendre, d'aller ressentir en fait en quoi la ville peut être un espace de domination, un espace de ségrégation, mais aussi en quoi est-ce qu'on peut s'émanciper de toutes ces contraintes-là. Et du coup, la dérive, c'était une des pratiques qui permettait d'aller à la fois essayer de comprendre et vivre autrement la ville.
Sommairement, le continent contre-escarpe se superpose au centre du 5e arrondissement, isolé par la structure de ses rues, les activités de divers points de Paris dont il est géographiquement assez voisin. Cette zone est délimitée au nord par la rue des Écoles. Il faudrait le lire. Relevé d'ambiance urbaine au nom de la dérive.
Et donc, la dérive ne marche pas.
C'est ma conviction intime, ma position effectivement que la dérive est une sorte d'échec, une manière désespérée de sortir du spectacle. Le projet de la dérive, c'est un projet qui me semble totalement antithéâtral, puisqu'il voudrait dériver presque à partir de rien, mais dans l'oubli de sa propre origine, de son propre commencement, et suivant aucune dramaturgie. Donc c'est une quête d'indétermination totale. Or, le théâtre, ce n'est pas l'indétermination totale. Il y a une partition, il y a quelque chose qui est déjà écrit, déjà joué, et que l'on peut suivre, et par rapport auquel on peut instaurer un écart dans la répétition, mais la répétition est première. Donc la dérive, elle se veut, je pense que Debord l'envisage, essaye d'imaginer ce qui serait l'antithèse du théâtre, voire ce qui pourrait fracturer la théâtralité de l'existence, permettre de s'en échapper.
Peut-être aussi, ou on peut essayer de le mettre en perspective à ces deux bouleversements historiques sur lesquels Debord revient dans les années 80. D'une part, la fin de la guerre froide et comment des techniques de manipulation des masses inventées par les États staliniens à l'Est ont été récupérées dans ce qu'allait devenir l'ex-bloc de l'Ouest, et qu'en fait, la fin de la guerre froide n'est pas la victoire du bloc de l'Ouest sur le bloc de l'Est, mais la fusion des deux. Finalement, le bloc de l'Ouest, le capitalisme libéral amenant le développement capitalistique incessant, cette productivité et ce développement financier qui n'en finit plus, et l'aspect militaro-policier des États staliniens étant apporté plutôt par ce que Debord appelait spectaculaire concentré. Et il y a ce secret généralisé sous cette forme-là. Quant au faux sans réplique, il y a aussi chez lui l'idée d'une falsification matérielle immanente et qui apparaît évidemment dans la crise écologique. Debord, c'est l'un des premiers à avoir pensé vraiment cette catastrophe écologique dès 73, si je ne me trompe pas, dans La planète malade, où il remarque que le développement des forces productives du capitalisme aujourd'hui s'oppose à la reproduction de la nature elle-même. Elle n'est pas seulement l'aliénation de l'humain, mais l'aliénation de ce qu'il y a de vivant dans l'humain et donc son rapport à la terre, aux animaux, etc. Et que pour continuer à reproduire du capital et à se développer dans ce rythme incessant, voilà, qui allait devenir le néolibéralisme, le capitalisme est contraint à une falsification généralisée de la matérialité des produits, des aliments, de l'air, l'obsolescence programmée, donc voilà, qu'on n'employait pas encore sous ce terme-là. Donc chez lui, il y a aussi cette idée de falsification à même l'objet.
Thèse 139, c'est la deuxième partie de la thèse. Voilà ce que dit Guy Debord. Dans la vie exubérante des cités italiennes, dans l'art des fêtes, la vie se connaît comme une jouissance du passage du temps. Mais cette jouissance du passage devait être elle-même passagère. La chanson de Laurent de Médicis, que Burckhardt considère comme l'expression de l'esprit même de la Renaissance, est l'éloge que cette fragile fête de l'histoire a prononcée sur elle-même. Comme elle est belle, la jeunesse, qui s'en va si vite. Donc là, on a, à mon avis, une sorte de concentré à l'état pur, de précipité de la pensée de Debord sur la question du temps. C'est-à-dire que cette jouissance du passage du temps à laquelle il aspire, et qui passe beaucoup par cet art de la fête, dont il a fait la démonstration dans sa propre existence, et en même temps cette grande mélancolie sur laquelle il s'arc-boute pour critiquer la modernité, cette mélancolie qui fait que le temps passe, mais que nous gardons le souvenir d'une belle vie. Et c'est ça qui lui permet justement de critiquer la mauvaise vie de la modernité spectaculaire marchande. Là, il me semble qu'on est justement dans une résistance à l'esprit de l'hypermodernité. C'est-à-dire qu'on voit bien comment dans ce passage, Debord s'appuie sur une époque historique passée pour critiquer la modernité contemporaine.
Maintenant, quoi qu'il soit établi, que l'idolâtrie est le fond de tous les spectacles.
Omer Corlet, 1770 ans avant Guy Debord et la Société du spectacle, Tertullien écrit un traité qui s'appelle « De spectaculis ».
Dans les pères de l'Église, on retient d'abord lui, Tertullien. Alors, paradoxalement, il va quand même quitter l'église à la fin de sa vie. Il va quitter l'église, on ne comprend pas bien, mais il va se refermer sur lui-même. Une espèce de puritanisme va l'habiter face à cette société romaine. Parce qu'on voit bien que dans l'évolution de ses textes, à quel point il va se radicaliser. C'est un juriste brillantissime dans l'argumentaire. Il est terrible, il laisse tout le monde KO. Parce qu'il a un sens de retourner les formulations. Et il ne travaille pas simplement sur le raisonnement, mais il n'oublie pas qu'il peut, comme un avocat, changer, jouer de la controverse et de mauvaise foi et de mener à l'autre par terre. Et ça, c'est sa force. Et alors, dans ce petit texte des Spectaculi, qui est un texte de 197 après Jésus-Christ, il fait ce texte des Spectaculi qui est un peu un inventaire des plaisirs à Rome ou de ce qu'il y a à Rome, puisqu'il parle du cirque, donc des quadriges et des bidges. Et comme il dit, le quadrige, il y a le dieu du soleil, le bidge, c'est la lune pour les deux chevaux, et puis tu as le théâtre avec les athélanes. Alors celle, c'est le théâtre masqué, grotesque, c'est pas simplement la tragédie. Étonnamment, il n'évoque pas la tragédie, mais il évoque ce théâtre masqué, comme il dit, impudique. Un des grands mots chez lui, c'est l'impudique. Et il en fera même un traité, le traité de la pudicité, à la fin de sa vie, en 213. Ça, c'est fascinant de voir à quel point cette occupation dans la recherche d'un changement d'éthique, d'une nouvelle éthique. Et alors, évidemment, il est proche des stoïciens, on peut dire, mais c'est même une concurrence par rapport aux stoïciens. Et lui, il se positionne très vite en disant, voilà, le cirque, évidemment, ça, c'est encore les jeux, il y a des dieux. Et alors ici, il y a une formule qui est extraordinaire, il dit, s'il y a des dieux ou des idoles, puisqu'il utilise le mot « idole », et là, on peut dire que quand il envoie l'idole, il y a peut-être notion d'aliénation. Donc on retrouve peut-être un des termes qu'on aura beaucoup plus tardivement, la notion d'aliénation. Et il dit, les idoles, on nous parle de souillure. Il dit, le lieu n'est pas souillé, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas besoin d'avoir des idoles pour les souillures, puisque la souillure vient de la pratique. Ça, c'est totalement... ça bouleverse complètement.
Visiter le Louvre en compagnie d'un vrai spécialiste est désormais très simple grâce aux visites guidées sur Nintendo 3DS XL.
À l'université, par exemple, dans le domaine de la médiation culturelle, il y a un biais épistémologique qui consiste à dire que les médias produisent les représentations. Je trouve que c'est un biais épistémologique très grave. Par exemple, quand ça permet de dire que l'antisémitisme où l'homophobie de Dieudonné est une production des médias. Et donc là, c'est un exemple très, volontairement très schématique, mais c'est pour bien souligner le biais épistémologique qui se trouve à l'œuvre, me semble-t-il, du travail de Debord, celui de l'absentement du réel, qui fait que maintenant, il n'est plus question, effectivement, que de cette extension de la représentation et du spectaculaire, donc de cet éloignement du réel qui, finalement, empêche toute critique matérialiste, en fait. Voilà.
Twingo Kenzo, à vous d'inventer la vie qui va avec.
On peut la relire là.
Ouais. Le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout.
Oui. Non, mais c'est
On dirait que le théâtre participatif risque d'inverser encore la chose, puisque le spectateur risque de se sentir chez lui partout.
Partout.
On voit que le spectacle sera encore plus partout.
On sera encore plus partout. Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai que un des projets un peu idéologiques du théâtre contemporain, c'est faire en sorte que le spectateur se sente comme à la maison. Chez lui, alors... on va lui servir des frites, on va lui servir de la soupe dans tous les sens du terme, on va le prendre par la main, on va lui permettre après de visiter les coulisses, on va l'interviewer à l'entrée, on va l'interviewer à la sortie, on va lui permettre de faire un workshop avec les artistes du spectacle pour créer plus de proximité et plus de convivialité, pour être de plus en plus inclusif. Alors, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de séparation, c'est ce que critique Debord précisément, entre le théâtre et le monde extérieur.
Alors, je cherche... des éléments conceptuels en commun. Je crois que j'en ai trouvé un important, parce que dans la thèse 29 de la Société du spectacle de Debord, on lit que dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieure. C'est ce qui l'amène à définir le spectacle comme séparation d'un monde supérieur à un autre.
Ah, oui.
Et on lit dans la première Société du spectacle ou dans le De Spectaculis de Tertullien ceci: nous ne pouvons nous asseoir à leur table, à propos des convives de Satan, parce qu'ils ne pourront pas s'asseoir à la nôtre. Les choses sont ainsi disposées que chacun doit attendre son tour. Ils sont maintenant dans la joie et nous sommes dans les tourments. Donc il y a encore une séparation le compte de la fête, donc d'une sorte de spectacle.
Je pense que c'est chez lui là. C'est en même temps très... Parce qu'il se rend compte que... Parce que là, il fait une analyse en même temps. Hein, ne perdons pas de vue. Il prend un deuxième regard. Hein, ne perdons pas de vue que c'est un deuxième regard. Et que ce deuxième regard essaye de nous dévoiler, en fait. C'est un travail aussi de dévoilement. Puisqu'il essaye de convaincre les chrétiens de ne plus y aller. Mais pas que les chrétiens. Ce qui est ça qui me semble très intéressant, c'est que dans sa critique radicale de l'idole, des idoles et de l'idolâtrie, il peut poser des questions. Parce que il faut quand même se dire que cette société romaine vit dans un polythéisme monstrueux, je dirais pas monstrueux, mais il y a des dieux partout. Comme Rome est ouverte à toutes les populations, tous les peuples, chacun vient avec son panthéon. Et donc c'est l'accumulation des panthéons. Et donc qu'est-ce que valent les panthéons ?
Quand on rapporte Debord à l'ensemble d'une tradition historique qui dévalorise les images, on a tendance finalement à cibler un discours qui serait une forme de continuité comme ça d'une série d'auteurs, sans se poser la question de la vérité ou de l'adéquation du discours de Debord par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Je crois que il n'est pas impossible que Debord emprunte certains de ces topoi, comme on dit chez les universitaires, à cette tradition de pensée, Tertullien, etc. Maintenant, il faut se poser la question, hein, est-ce qu'il a raison d'emprunter ces motifs-là ? Est-ce que ces motifs correspondent à un état de la société ? Est-ce que sa critique a une acuité par rapport à la société contemporaine ? C'est ça, à mon avis, la véritable question à se poser.
La critique de l'image, elle vient évidemment de Platon. Et il y a certains commentateurs de Debord qui voudraient dire, Bon, Debord, c'est un iconoclaste. Un peu à la manière de Platon, parce qu'effectivement, chez Platon, bon, même si je sais que maintenant c'est débattu parmi les platoniciens, mais bon, bref, l'idée, c'est que l'image nous rive au monde sensible, rive notre âme au monde sensible, et nous empêche d'accéder à l'intelligible, accéder au monde des idées, etc. Et donc, du coup, on dirait, bon, bah, Debord, en fait, fait à peu près la même chose que Platon. La société du spectacle, ce serait une actualisation de l'allégorie de la caverne. Les images nous aliènent, et contempler les images, c'est ne pas avoir un rapport direct ou authentique au monde. Mais ça, à mon avis, c'est très mal comprendre Debord. Ce qu'il critique, c'est l'image dans son usage marchand. Et le fait que les images, notamment dans la publicité, mettent en scène un certain nombre de désirs, nous incitent à agir de telle ou telle manière, et du coup, fonctionnent comme des enrobages de la marchandise, qui permettent à la marchandise de mieux s'écouler.
Quand on le voit préparer son film, il visionne des films, il visionne aussi des actualités, et il feuillette de nombreux magazines dans lesquels il extrait des images. Alors ça peut être des photographies de dirigeants politiques, des images de reporters de guerre, mais aussi beaucoup d'images d'accumulation de marchandises dans des publicités pour du jambon, pour du fromage. Pas mal d'images aussi d'intérieurs, les intérieurs typiques de l'époque, Jean Rocher-Beaubois, et aussi beaucoup de pin-up, c'est-à-dire de jeunes filles dénudées, celles qui avaient débarqué dans la presse française en 63-64, je pense, comparé le premier numéro de lui, qui est un peu un événement quand même pour beaucoup d'artistes à l'époque. Et donc Debord utilise beaucoup ses pin-up. Et ça me paraissait être un élément assez intéressant de ce film, parce qu'on pourrait dire que la pin-up, bien sûr, c'est l'objectification absolue, c'est l'aliénation du corps de la femme. On pourrait dire, on a pu dire que Debord avait un rapport un petit peu macho à tout ça, qu'il utilisait des filles parce que lui-même était un macho. Alors, peut-être et certes, mais pour lui, le spectacle nous montre quand même une vie véritablement vécue. Il nous en dépossède tout en nous la montrant. Et précisément parce qu'il la représente, il nous l'arrache. Ce qui n'empêche que la vie réellement vécue telle que présentée dans le spectacle, c'est bien ça qu'il faut reprendre. Et donc, il y a ce que j'ai appelé une dialectique de la pin-up, qui à la fois sert à illustrer la marchandise absolue, l'objectification, l'aliénation absolue du corps humain, c'est-à-dire l'usage qui est fait des femmes dénudées encore aujourd'hui dans la publicité, tout en considérant qu'il y a là justement ce qu'il nous faudrait retrouver. Donc le désir qui est congelé dans la publicité, c'est ce qu'il nous faut retrouver, recouvrer et récupérer, exproprier le spectacle de ce dont il nous a dépossédé. Donc typiquement, dans le film La Société du Spectacle, on voit très souvent apparaître de ces pin-up.
À l'acceptation béate de ce qui existe, peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Ceci traduit ce simple fait que l'insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l'abondance économique s'est trouvée capable d'étendre sa production jusqu'au traitement d'une telle matière première.
Mais qu'est-ce que ça fait circuler ? C'est effectivement, c'est comment chacun relaye et reprend et se met, c'est la mise en scène de soi. Hein. Y compris avec nos outils, excellents moyens de flicage, le smartphone, etc. Et donc je pense que de ce côté-là, il y a à la fois, évidemment, encore une fois, une pertinence de cette pensée, et en même temps, qui continue finalement à être marquée peut-être, alors là pour le coup, par finalement un marxisme qui reste de ce côté-là assez traditionnel, mais qu'on retrouve aussi dans l'anarchisme, c'est il y a eux et il y a nous. Or, ce que je pense que Foucault a pu apporter, c'est que cette question du pouvoir, elle était beaucoup moins séparée que ce que le mouvement ouvrier ou les mouvements révolutionnaires ont pu en dire, ont pu, y compris pour dégager un sujet révolutionnaire, des classes exploitées, etc.
Mais on n'est pas que des simples suppôts de la médiatisation en masse, etc. On a aussi un côté qui résiste à ça, qui est en décalage et qui peut faire autre chose, n'est-ce pas ? Et alors oui, il est désespéré, je pense qu'il est totalement désespéré. Au départ, c'est une obstination critique qui, face à la réalisation de sa propre vision horrible, clôturé, enfermé, devient un vrai désespoir. Je ne sais pas quelle est la part de... Je ne suis pas biographe, mais je ne sais pas quelle est sa part de provocation volontaire, hein, qui est initiale quand même avec le dadaïsme, le lettrisme, ce genre de choses. C'est-à-dire, la provocation fait partie de l'écriture et de l'existence intellectuelle de Debord. Provocation qui consiste à dire il n'y a aucun espoir, arrêtez vos partis réformistes gentils pour aller aux élections ou revendiquer des hausses de salaire avec les syndicats. Provocation qu'il partage avec d'autres auteurs de son temps et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que les gens, c'est-à-dire les travailleurs par exemple, le contredisent. En pratique, en acte, par la praxis, comme il dit, ce mot existe néanmoins dans son écriture. Par contre, je pense que plus ça va, plus le néolibéralisme s'établit pendant un temps victorieusement, plus le désespoir devient réel et presque définitif, c'est l'impression que j'ai. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si sa vision... sceptique, pessimiste, se vérifie quand on voit le foisonnement des pratiques alternatives, des mouvements, y compris en Europe, qui débordent justement le cadre analytique qui est posé. Je ne sais pas si c'est justifié. Hein, il y a un jeu entre la radicalité de la critique et l'observation presque empirique et pratique d'autres choses qui naît peut-être d'une subjectivité rebelle ou d'un travail vivant, même dans les formes numériques complètement aliénées qui prolongent l'automatisation dont parle Debord, par l'informatique, le numérique, etc. Même à l'intérieur de ça, il y a toutes sortes d'alternatives qui se créent, qui mettent des grains de sable, voire des contre-propositions plus audacieuses.
C'est quand même le point le plus important, peut-être, de la pensée debordienne, cette idée que tout part d'une forme de subjectivité radicale, que je prétends pas avoir, mais que ce livre-là m'a aidé à essayer de viser. Cette idée que la révolution se fera pas totalement spontanément, pas non plus par la coercition, mais par une espèce d'éveil individuel des subjectivités et donc collectif. C'est ça quand même le point le plus fort dans la proposition de Debord. De Debord et pas seulement de lui d'ailleurs, des situationnistes. Cette idée d'une subjectivité radicale, chacun étant une espèce de mini conseil ouvrier qui met en place des conseils ouvriers, des manières d'agir ensemble, où voilà la vie quotidienne rejoint les questions plus larges d'émancipation collective qui passent par des émancipations individuelles.
C'est parti, allez-y, encore, très très bien, très très bien. La main en arrière, parfait, c'est trop en arrière, revenez, très très bien, redescendez, très bien, enlevez la main, très bien, c'est de face.
Guy Debord, une œuvre à détourner.
Toujours avec ce même esprit, les mains ont pas au-dessus de la tête, elles restent sur les côtés.
Une production de David Christoffel. Réalisé par Lionel Quentin et mixé par Alain Joubert.
Redescendez et vous reprenez.
Une vie, une œuvre, attachée d'émission Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko.
Ça c'est bon. On continue, encore. Très bien, vous reprenez. Et là, vous remontez le col arrière. Et là, vous mettez un petit peu en avant. Vers moi. Oui, excellent. Encore. Ça, c'est très, très bien. Encore. Parfait. Toujours pareil. Pause.
Cette émission est disponible en podcast un an et en réécoute à vie sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Et samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à la chanteuse et compositrice Barbara.